Bonsoir. Poursuite des expulsions des Congolais de la RDC et des Brazzaville. 5000 personnes sont expulsées chaque jour selon l'Organisation internationale de migration. Le gouvernement de la RDC dénonce les conditions dans lesquelles cette opération se déroule et la violation par la République du Congo des conventions en la matière. Kinshasa exige aussi la convocation d'une réunion extraordinaire de la Commission de défense et sécurité entre les deux pays. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 7 mai 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Samuel Munga, analyste en questions internationales. Il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Monsieur Munga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bienvenue, Marie Bakoumania, directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe des presse Mediaset. Bienvenue, Marie Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir, chers consoeurs.
Et Jean-Claude Bouemba, député national et président du MPCR, parti politique de l'opposition. Il est aussi vice-président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci de nous suivre, partenaire DC, sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à Kuala Lumpur, en Malaisie et dans les restes du monde, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Nous devrions avoir dans cette émission Ramazani Chadari, député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, secrétaire national chargé du processus électoral au PPRD. Il a dirigé la commission parlementaire qui s'est rendue à Brazzaville. Malheureusement, il vient de se désister alors qu'il avait donné son accord de principe. Au moins 5000 Congolais de la RDC sont expulsés de Brazzaville chaque jour. Le nombre d'expulsés du 26 avril jusqu'à ce jour est de 72 000. 3 000 d'entre eux sont pour le moment hébergés à l'ex-stade 24 novembre, dont des enfants non accompagnés et de nombreux sans-papiers qui attendent leur évacuation vers leur lieu d'origine. On écoute à ce sujet Florian Maurier, chargé de projet à l'OIM RDC, qui revient sur les conditions des rapatriements et d'hébergement. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali.
Concrètement, ce qu'on a pu y voir, c'est effectivement des expulsions massives. J'ai discuté avec le chef de poste de la DGM qui nous a fait visiter un peu comment fonctionnait l'accueil de ces expulsés. Nous avons 5000 personnes qui arrivent chaque jour, ce qui est assez énorme, souvent dans des états de fatigue très avancés, parce qu'il faut savoir que ces gens apparemment restent sur des sites de transit au Congo-Brazza durant plusieurs jours, avec très peu d'eau et de nourriture. Et là, les agents de la DGM s'occupent rapidement de faire leur enregistrement et ensuite ils les dispatchent dans des navettes pour le stade où leur famille les accueille. Nous pensons que les expulsions vont encore durer pendant un mois. Ce phénomène était au départ localisé sur une partie ciblée des Congolais, à savoir ceux qui n'ont pas de papier. Maintenant, le phénomène s'est un peu accentué. C'est comme si les autorités du Congo-Brazza avaient laissé libre cours à des actions individuelles, et ce qui fait que maintenant beaucoup de personnes quittent Congo-Brazza sans motif particulier.
L'OIM s'est dit par ailleurs prête à appuyer avec d'autres agences humanitaires partenaires les efforts du gouvernement dans la prise en charge et l'acheminement de ces expulsés essentiellement vers le Bas-Congo et l'Équateur. Ce dossier a justement été traité au Conseil des ministres présidé hier mardi par le Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Selon son porte-parole, le gouvernement dénonce la violation par le Congo-Brazzaville des conventions internationales et régionales en la matière et les conditions dans lesquelles ces personnes sont expulsées. On écoute un extrait du compte-rendu lu par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.
Nos compatriotes subissent des exactions, des extorsions, des tortures et des lynchages de la part de certains éléments de la police et des bandes de jeunes xénophobes de la République du Congo-Brazzaville. Face à cette situation, nombre de Congolais de la République démocratique du Congo en ordre de séjour au Congo-Brazzaville ont décidé de quitter volontairement ce pays pour éviter l'humiliation et les brimades, renonçant de la sorte par contrainte à leurs droits. À la date de lundi 5 mai 2014, 71 407 compatriotes ont été expulsés du Congo-Brazzaville par le Bitchingobila à Kinshasa. Certains autres ont été expulsés par des postes frontières hors de Kinshasa, 37 dans la province du Bandundu et 231 dans la province du Bas-Congo, ce qui donne un total de 72 731 personnes refoulées du Congo-Brazzaville.
Jean-Marie, bienvenue plutôt Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe des presses Média 7. Quelle analyse vous faites de cette situation à ce jour, nous sommes à 72 000 expulsés et chaque jour au moins 5 000 Congolais sont chassés de Brazzaville.
Oui, madame, il faut actualiser les chiffres du gouvernement. Nous sommes à ce jour à 78 000 selon la mission onusienne qui a tenu son point de presse hebdomadaire aujourd'hui, qui a livré ce chiffre, et c'est un chiffre crédible, d'autant plus que les expulsions se poursuivent encore. C'est dire que dans les tout prochains jours, comme il est dit que ça va s'étendre sur tout un mois, la République démocratique du Congo devra se préparer à recevoir plus ou moins 500 000 personnes supplémentaires sur son territoire, des Congolais qui rentrent chez eux. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, d'autant plus que dans un pays, dans un État, la population est censée vivre à l'intérieur des frontières. Quand les populations sortent des frontières, ce sont des situations exceptionnelles qui sont prévues dans des cadres bien précis. Mais ce qui est déplorable par rapport à ce qui se passe avec nos frères du Congo-Brazzaville, c'est la brutalité, c'est le manque de considération, non seulement auprès de la population, mais également auprès de nos autorités. Il y a une convention qui existe entre la RDC, l'Angola et la République du Congo en lien avec les rapatriements des réfugiés.
Alors, nous venons de perdre Jean-Marie Bakoumania. La réalisation va essayer de le retrouver. Bienvenue Marie Bakoumania. La réalisation va essayer de le retrouver. Samuel Monga, je rappelle que vous êtes analyste en questions internationales. Vous vous intéressez aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Quelle est votre lecture de cette situation?
Écoutez, madame, bonsoir et merci pour votre invitation. Je profite de l'opportunité pour saluer les co-débatteurs. Face à Brazzaville, suscite en moi trois interrogations de différents ordres. D'abord, sur le plan juridique, il s'agit du droit international humanitaire, il s'agit des règles de pratique de bon voisinage entre États, il s'agit encore de toute une série de pactes ou d'accords ou encore de déclarations auxquelles bon nombre d'États africains ont adhéré sur le continent. Je pense par exemple à la déclaration de Durban de 2000 qui très concrètement combat la xénophobie, le racisme, toute forme d'exclusion. Eh bien, il semble que, et il est pourtant clair que l'attitude déployée par certains éléments de police de Brazzaville, qui sont, je le rappelle, une émanation de l'ordre public, viole tout bonnement ces principes. Et cela est inquiétant. Si l'on se réfère au statut de Rome, à son article 7, qui énonce le crime contre l'humanité et qui donne une liste non exhaustive de ce genre de faits répréhensibles et réprimés par le statut de Rome, eh bien, la déportation de population, le mauvais traitement auquel on a assisté, peut parfaitement entrer dans ce genre de catégorie. Deuxièmement, sur le plan politique, au sens large, en particulier sur le plan diplomatique, il se pose la question des relations entre deux pays considérés comme ayant les capitales les plus proches. On ne peut que regretter qu'alors que nous sommes au moment où les mouvements de population intra- et interrégionaux s'accentuent, de par la technologie, de par aussi les enjeux de la mondialisation, on regrettera bien évidemment cette espèce de repli sur soi, ce signal en tout cas dans ce sens que semblent envoyer nos frères de Brazzaville. Le gouvernement congolais a dans un premier temps, et je crois que c'était très important, veillé à maintenir le dialogue en conservant les chances d'une solution diplomatique, d'une solution apaisée, mais l'on s'inquiète qu'au fur et à mesure que les jours passent, les choses ne changent pas radicalement de ce côté-là. Et puis, enfin, je m'inquiète sur la projection que Brazzaville peut donner d'elle-même, de son pays. On sait que le Congo-Brazzaville, en tant que plus petit pays, comparativement à la RDC, eh bien, inscrit sa projection sur la scène internationale en essayant de donner une meilleure image du pays. Mais hélas, les derniers événements viennent un petit peu entacher l'image d'un pays connu, en tout cas du point de vue de son chef de l'État, comme un faiseur de paix qui est là en Afrique. Voilà un petit peu mes premières impressions.
Samuel Monga, il y a Harmonie Obed qui nous écrit depuis Ouvira au Sud Kivu qui dit ceci, de mon avis cette situation de nos voisins de Brazzaville constitue juste un sabotage des Congolais, un mépris au vrai sens du terme. Expulser des étrangers irréguliers en soi c'est normal, mais dans quelles conditions? Le Congo-Brazza est aussi signataire de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que la RDC. Attendez Samuel Monga. Là, je suis en train de vous lire une réaction d'un auditeur qui nous écrit depuis Ouvira au Sud Kivu. Est-ce que vous m'entendez? Samuel Monga? Je crois qu'on a un problème des lignes. La réalisation va essayer de le rappeler. Dans ce studio avec moi, Jean-Claude Vuemba, député national et président du MPCR, parti de l'opposition. Il est aussi vice-président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Honorable Vuemba, quelle est votre lecture de cette situation? Nous sommes à ces jours à plus de 72 000 expulsés et chaque jour, 5 000 Congolais sont chassés de Brazzaville.
Merci bien, madame. Avant toute chose, je ne peux en aucun cas avoir des sentiments. Moi, j'ai vécu. Je suis revenu de Brazzaville. Hein? Donc, j'ai vu la population. J'ai vu mon peuple. Comment mon peuple était en train de souffrir, de mourir. Tout simplement pourquoi? Parce que nos frères, issus du même ancêtre, Congolien Totila d'Ambassa, Congo, n'ont plus accepté le leur. Le problème, c'est, madame, le problème est grave.
Vous êtes parti dans le cadre de la commission parlementaire?
Député ne peut pas partir dans le cadre officiel ou bien inofficiel. Je peux arriver là-bas dans le cadre privé, dès lors que mes compatriotes, sont en train de mourir et de souffrir. C'est tout à fait normal que je m'intéresse à elles à 1000% parce que j'avais la chance d'être là. Madame, le problème, c'est quoi? Il faut bien que nous puissions contourner le, il ne faudrait pas que les gens contournent cette affaire. Il y a un malaise profond qui peut être existé au Congo-Brazzaville. Que ce soit les autorités du Congo-Brazzaville, l'autorité du Congo-Kinshasa, ne l'ont pas vu de la même façon. Il y a eu des jeunes qu'on appelle ici chez nous les Kuluna, paraît-il, se sont dévergés vers Congo-Brazzaville et ils ont commencé à faire des choses anti-loi vis-à-vis de la République de la République du Brazzaville. Le pouvoir de Brazzaville a décidé, en tant que pays souverain, d'expulser, de faire retourner les Congolaises et les Congolaises de Kinshasa. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais la manière, madame, c'est ça le problème. Il n'y a pas eu un message ou une vulgarisation en disant que dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, toutes les Congolaises et les Congolais de Kinshasa, qui ne sont pas en règle, puissent quitter notre territoire.
Donc vous voulez dire que le gouvernement congolais n'était pas informé, ni l'ambassade du Congo à Brazzaville n'était pas informé.
Je vous dis que j'étais là. L'ambassadeur du Brazzaville n'a pas été informé, ni d'ailleurs le gouvernement de Kinshasa. Pourquoi nous sommes en train de s'en prendre à ce gouvernement? Tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que les services de sécurité, au lieu de suivre réellement leur pays ailleurs, là où ils devaient y être, surtout à Brazzaville, nos services de sécurité n'étaient même pas au courant qu'il fallait y avoir une opération Mbata et Mukolo. C'est vrai que quand ça a commencé, Ça, je dois dire la vérité. Quand ça a commencé, que les gens se sont rendus compte que, tiens, il y a quelque chose de grave qui arrive. Madame, comment ça s'est passé? Même les gens qui ont leur carte de séjour, quand la police brazzavilloise arrivait, c'était tout simplement pour les déchirer. Ils ont dit, parce que là-bas, ils nous appellent des Aïrois et des Aïroises. Hein, ils ont dit que nous ne voulons plus voir des Aïrois et des Aïroises. Avoir une carte de séjour, être en règle, avoir une carte consulaire qui certifie votre adresse, le domicile, ça n'avait pas d'importance. Ils arrivaient comment, madame? Comme en 1940 à 1945, pendant la Gestapo, en France. Ils arrivaient, la police arrivait dans un quartier. Ils se renseignaient auprès du chef du quartier. Ils se renseignaient auprès du chef de la rue pour qu'on puisse leur montrer là où habitaient les Aïroises et les Aïrois. En ce moment, ils rentraient et ils commençaient. Soit il y avait des objets de valeur, ils les mettaient de côté. Tout ce qui restait, ils brûlaient. Ils intimaient même l'ordre. D'ailleurs, ils continuaient à intimer l'ordre aux bailleurs du Congo-Brazzaville de ne plus louer leur maison aux Congolaises, enfin aux Aïrois et aux Aïroises. À partir de ce moment-là, madame, il y a eu maintenant ce que nous appelons dans les jargons policiers dérapage. Les militaires et les policiers faisaient tout ce que bon leur semblait, avec des viols, avec de tabassages en règle. Même des compatriotes qui sont morts, qui étaient dans les morgues. Vous avez appris même, il y avait même des vivants. Hein, qui se sont retrouvés à la mort. Il y a des choses anormales, madame. Malheureusement, comme vous avez dit par rapport à notre pays n'a rien fait. Madame, si un gouvernement est là et ne peut même pas assumer la sécurité des siens, juste en traversant la route, pardon, en traversant le fleuve à 15 minutes, à quoi bon servirait ce gouvernement?
Le gouvernement a dénoncé et exige une réunion extraordinaire de la commission des Français et sécurité entre les deux pays.
Je viens de suivre mon compatriote Samuel Monga, hein, qui est en train de parler que le gouvernement national a décidé de poursuivre les relations pour qu'il puisse y avoir une ici. Non, madame! Quand vous voyez dans un pays qui se trouve ici en face, hein, plus de 72 000 à 100 000. Parce que généralement, quand le gouvernement congolais donne un chiffre, il faut le multiplier par deux. Hein, plus de 72 000 à 100 000 de nos compatriotes qui viennent de traverser. Et seulement sur le but Ngobila. Et dans notre frontière. Où est-ce qu'ils en sont maintenant? Vers l'Équateur, vers le Bas-Congo et consorts. Non, madame, la seule décision que le peuple congolais attendait de ce gouvernement, un, c'était de fermer la frontière fluviale entre Kinshasa et Brazzaville dans le but Ngobila, afin de permettre à nos compatriotes de se mettre à l'aise afin qu'ils sortent volontairement. Et de deux, madame, rompre les relations diplomatiques, ça peut se faire pendant deux jours, ça peut se faire pendant une semaine, justement pour qu'on puisse donner le temps à nos compatriotes qui ont fait 30 ans, 50 ans, qui ont cotisé pour les retraites. Il y a même d'autres, madame, j'ai des exemples que je peux vous donner. Donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement n'a rien fait. Et puis de trois, madame.
Mais est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose, le fait de dénoncer?
Madame, vous savez, ce pays est faible, madame. Nous avons connu 32 ans de Mobutu. On n'a jamais dénoncé. On a été dans le front. Quand on touchait aux Zaïre de l'époque, le maréchal Mobutu était là. Mais où sont les dirigeants d'aujourd'hui? Où sont-ils, madame? Nous ne pouvons pas accepter ce que nous avons vécu à Brazzaville, que ce pays-ci soit considéré, comme disait tout à l'heure M. Monga, par rapport au Congo-Brazzaville, un petit pays. Non, madame. Il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de grand pays. Il y a des pays qui sont forts et des pays qui sont faibles. À l'heure actuelle, notre pays est faible parce que nous avons un leadership faible.
Merci, honorable Jean-Claude Wemba. Bienvenue, Marie Bakoumania. Je reviens à vous. Comme je l'ai dit dans le terme tout à l'heure, 5000 Congolais sont expulsés de Brazzaville chaque jour selon l'Organisation internationale de migration. Le gouvernement a dénoncé hier au cours du Conseil de ministres les conditions dans lesquelles cette opération se déroule et exige une convocation d'une réunion extraordinaire de la Commission de défense et sécurité entre les deux pays.
Bah, écoutez, consoeur, je vais vous dire franchement, l'honorable Mwemba a déjà abordé la question telle qu'il fallait absolument l'aborder, c'est la question de la réciprocité. Nous avons déjà dépêché un vice-ministre, un ministre, et puis en ce moment-ci, il y a le gouverneur André Kimbuta, qui a effectué la traversée de Brazzaville. Sur le plan diplomatique, on en a fait assez. La population congolaise, l'opinion dans son ensemble, attendait à ce que le gouvernement de la République démontre sa capacité de réactivité vis-à-vis d'une situation qui, en fait, relève de la souveraineté et de la fierté des Congolais. Le gouvernement ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le gouvernement continue donc à planter ce mur de lamentation plutôt que d'agir. On attend. Maintenant, il n'est plus question de Jérémy Miad à ce stade. À ce stade, il faut des actions. Et ces actions, sur le plan diplomatique, peuvent aller à la fermeture de frontières. Dites-vous, madame, aujourd'hui, les frontières congolaises fermées dans les sens de Kinshasa vers Brazzaville et de Brazzaville vers Kinshasa, nous ne serons pas les grands perdants. Au contraire, c'est Brazzaville qui risque d'être asphyxié. Peut-être heureusement qu'ils ont aujourd'hui des rotations des légumes et des tomates qui viennent de Kigali, mais d'une manière ou d'une autre, si nos frontières, le fleuve est devenu imperméable, rien ne traverse, je vous dis, Brazzaville sera asphyxié. Il y a en perspective la construction du pont route-rail qu'on projette de jeter sur le fleuve Congo, qui va valoriser en fait et rentabiliser le port de Pointe-Noire. Il suffit qu'aujourd'hui, la République est en droit aujourd'hui de remettre en cause même l'éventualité de la construction de ce pont. Sur le plan diplomatique, c'est une pression énorme. Je me pose la question aussi dans mon pays, dans notre pays, la RDC, il n'y a pas de stratège. Il faut que le gouvernement soit aidé pour qu'il puisse prendre des mesures, qu'il puisse faire des mesures ciblées, des mesures de rétention ciblées vis-à-vis du Congo-Brazzaville, pour que sur le plan diplomatique, on puisse avoir un dossier en main. Aujourd'hui, on veut convoquer la commission de défense. Nous y allons dans quelle position? En position de faiblesse. En position de faiblesse, aujourd'hui, nous allons y négocier, demander au Congo-Brazza arrêter d'envoyer 5000 personnes chez nous. Et en face, qu'est-ce que nous allons présenter comme cahier de charge? Hein, les lamentations. Il était question qu'on recrée d'abord l'équilibre de force, que les rapports de force soient rééquilibrés, de manière à ce que sur la table des négociations, nous ayons également des arguments à faire prévaloir. Malheureusement, le gouvernement a pris les dispositions pour recevoir les Congolais ici, mais à mon sens, jusque-là, les dispositions de l'autre côté de la frontière ne sont pas prises. Et lorsque les dispositions de l'autre côté de la frontière, où se commettent les pires des exactions, où se commettent les pires de souffrances sur nos compatriotes, les dispositions ne sont pas prises, dites-vous, les Congolais ont l'impression d'être abandonnés. Et ça fait qu'il y a une sorte d'apathie vers la République, parce que on a comme l'impression que la République ne fait rien pour sa population. La République abandonne ses populations pendant les moments les plus difficiles. Savez-vous, madame, c'est vraiment une grosse parenthèse que j'ouvre. Il y a nos enfants qui sont en Ukraine aujourd'hui. Posez la question, madame, faites promener votre micro au ministère des Affaires étrangères s'ils savent où ils sont, dans quelle province ils sont, comment est-ce qu'ils seront sécurisés en cas de problème. Les coups de pied que nous recevons de ces côtés-là interpellent. Donc nous devons nous remettre aujourd'hui en question et nous dire ce qui nous arrive peut nous arriver encore. L'Ouganda a fait pareil, il y a eu naufrage, les compatriotes sont morts sur le lac. L'Angola en fait chaque jour, la Zambie, c'est même un sport national. Donc tous les voisins se permettent de ridiculiser la République démocratique du Congo à se présenter comme étant pauvre, une population pauvre, alors qu'en réalité, tous les voisins profitent de ce qui se passe chez nous, profitent de notre désordre. Il suffit que nous puissions nous organiser pour que les choses puissent avancer autrement.
Alors, bienvenue, Marie Wakoumane. On va prendre rapidement pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kasai oriental.
Galvani Placide Diop en Mbujimayi au Kasai oriental. Les expulsions de manière inhumaine des Congolais dénotent de la mauvaise volonté des pays voisins qui ne jurent que par la déstabilisation humanitaire et socio-économique du pays. Et c'est la passivité avec laquelle le gouvernement traite cette affaire frise la complicité. Pendant, en dépit de toutes les démarches entreprises par plusieurs parties prenantes qui se sont avérées sans succès, la tenue d'un conseil de sécurité entre les deux pays ne peut rien donner car Brazzaville a déjà pris sa position malgré les excuses de façade. La rupture des relations diplomatiques et l'ouverture d'une enquête sérieuse et indépendante ainsi que la traduction en justice des auteurs de violations des droits de l'homme sont les seules marges de manœuvre dont dispose la RDC car le choix est clair entre un frère et un ami.
Alors cet auditeur pense que la manière dont le gouvernement congolais traite cette affaire frise la complicité.
Moi je n'irai pas jusque là, hein, même si lorsqu'on fait une analyse même superficielle, on est tenté de croire qu'il y a une certaine complicité. Même si on ne veut pas parler de complicité, qu'il y a une certaine tolérance, une tolérance qui frise une certaine faiblesse de notre part. Mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Mais nous devons nous interroger nous aussi. Hein, les autres s'organisent chez eux. Hein, ils sont en train de balayer leur cours.
Quand est-ce que nous aussi, on va balayer notre cour? Quand est-ce que nous aussi, on va chasser de chez nous les irréguliers, ils sont en nombre? Quand est-ce que nous, on va prendre réellement en charge nos marginaux, les Koulounas? Hein, on les a chassés.
Merci.
Ici, mais ils sont revenus en force. Hein, les télévisions qui montrent les images de proximité
merci,
nous régalent chaque jour, hein, nous projettent chaque jour des actes de banditisme répréhensibles, alors que nous avions connu l'opération Licorf ici.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que nous devrions avoir dans cette émission Ramazan Chadari, député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il a dirigé la commission parlementaire qui s'est rendue à Brazzaville. Malheureusement, il s'est désisté en dernière minute alors qu'il avait déjà donné son accord de principe. Gabriel Mongage, il y a un auditeur qui nous écrit d'Ouvira au sud Kivu, il s'appelle Harmonie Obed. Il dit ceci: de mon avis, cette situation de nos voisins de Brazzaville constitue juste un sabotage des Congolais, un mépris au vrai sens du terme. Expulser les étrangers réguliers en soi, c'est normal, mais dans quelles conditions? Le Congo-Brazza est aussi signataire de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants que la RDC. Le gouvernement congolais a bien fait des primes à bord de dénoncer ces violations de droits fondamentaux des citoyens congolais sous le sol de Congo-Brazza. Par contre, cela ne suffit pas. Il doit pousser plus loin, porter plainte au niveau des tribunaux internationaux. Samuel Monga? Je crois qu'on a un problème sérieux des lignes avec Samuel Monga, Jean-Claude Vouimba. On va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient. C'est Dinanga qui nous appelle. On va prendre sa réaction.
Igor Dinanga, depuis le Bas-Congo à Matadi. Tout d'abord, cet événement est d'abord triste pour nous, les Congolais de la RDC, de voir être expulsés nos compatriotes par un soi-disant frère. Cela nous oblige aussi à disserter certaines choses, plus précisément, qui est qui. Concernant la décision au niveau du gouvernement, la RDC doit d'abord chercher à localiser la source du problème en cherchant la cause. La décision ne doit pas être trop discriminatrice, vu aussi la situation de deux capitales les plus rapprochés du monde. Car cette décision pourra aussi affecter la sécurité des deux parties. Donc la RDC doit suivre certaines règles, non pas divisaires, mais peut-être réparatrices pour permettre la bonne cohabitation, tout en obligeant une considération de la part du voisin, car un Congolais actuellement ne vaut plus rien, plus précisément dans cette partie du monde.
Réaction, Jean-Claude Bruno.
Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec mon frère Dinanga Ador de Matadi, tout simplement, parce que l'hospitalité du Congolo Zaïrois n'est pas d'aujourd'hui. Quoique nos voisins, de fois, essayent de l'oublier, en oubliant même que d'autres, même que nous avons tout fait pour qu'ils puissent devenir indépendants. Mais là où je le rafraîchis la mémoire, c'est qu'en lui disant, en 2009, madame, je venais d'une mission parlementaire, et à Mwanda. Les Angolais ont fait pareil. À cette époque, j'en avais ému tout le Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Rien du tout, madame. Donc, c'est pour cela, le problème, c'est quoi? C'est que le Congo n'a pas de moyens répressifs. Quand je dis répressifs, je suis contre les expulsions du Congo-Brazzaville de Kinshasa, parce que nous sommes issus d'un même peuple. Je dis tout simplement, nous avons un problème avec les autorités africaines. Tant zimbabwéennes, rwandaises, ougandaises, congolaises du Brazzaville et même de l'Angola. Donc c'est pour cela que nous disons tout simplement ceci. La première des choses, évidemment, bienvenue, Bakoumania a essayé un peu de l'esquisser. Madame, j'étais parmi les rares personnes qui étaient contre qu'on puisse hériter le pont route rail Kinshasa-Brazzaville. En leur disant tout simplement, économiquement, ça nous servait à rien, au contraire, on était perdants, parce que eux, avec leur port en eau profonde à Pointe-Noire, donc aura le beau rôle pour que leurs marchandises arrivent à un bon prix par rapport à nous. D'où l'importance était de jeter le port en eau profonde de Banana. Or, madame, jusqu'à présent, le gouvernement congolais ne s'est pas encore attalé. Au contraire, ils ont préféré aller prendre des commissions de la BAD pour qu'on puisse venir jeter le pont route rail Kinshasa et Brazzaville. Dans le cas contraire, madame, on avait la route, on avait le pont. Hein? Alors, en ce moment-là, on serait où? On aurait pu avoir des trains à destination de Pointe-Noire, de Dolésie, de Brazzaville, comme si on était en 1940-45, le train qui partait à Auschwitz. Donc, à partir de ce moment-là, madame, il ne faudrait pas commencer à vouloir jouer comme j'ai entendu un membre du gouvernement congolais. Il y a d'autres personnes qui veulent jeter de l'huile dans l'eau. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes un pays faible, madame.
Merci.
Donc, à partir de ce moment-là, s'il vous plaît, donc je termine par là. À partir de ce moment-là, madame, vous savez, ce matin, j'ai été très peiné. Je suivis Alain Mabakou sur son tweet. Qu'est-ce qu'Alain Mabakou dit ? Alain Mabakou, c'est un Congolais de Brazzaville. C'est honteux et une aberration que le Congo-Brazzaville se rend coupable au procédé des expulsions des citoyens de la RDC, selon la manière. Madame, il y a un buzz en vidéo qui circule. D'ailleurs, je crois que la télévision Molière, pour ne pas le citer, a essayé un peu de le mettre, madame. Là, vous voyez des militaires de la garde présidentielle du président Sassou sont en train de dévêtir des Congolaises, nos mamans, nous. Deux fois, j'ai même vu une maman qui doit avoir peut-être 65 ans. On est en train de dévêtir cette femme qu'ils ont croisée dans un... Je n'en sais rien. Alors, madame, c'est ça. Ce genre de choses, comment voulez-vous le regarder chez vous en famille et que vous puissiez avoir un cœur? Non, nous devons devenir forts. Nous devons reprendre que le Congo, c'est un pays fort. Le fait seulement d'avoir 70 millions d'habitants.
On va vous redonner la parole. Merci, honorable. La situation humanitaire des expulsés du Congo-Brazzaville entassés au stade Cardinal Malula et dans la cour de la maison communale de Kinshasa est déplorable. Tout se passe la nuit à la belle étoile, à peine une bâche pour plus de 1000 personnes, pas de tente pour s'abriter. Malgré l'installation des latrines mobiles et la présence des services de salubrité sur les sites, le nombre de ces expulsés qui n'est fait qu'augmenter au jour le jour perturbe toute prévision. Berry Franklin Tuchaka est descendu sur le lieu et nous décrit la situation.
Les retournés de Brazzaville vivent dans des conditions humanitaires très déplorables. Ils sont hébergés dans la commune de Kinshasa au stade Reine Astrid, ex 24 novembre, en face de la maison communale de Kinshasa et dans l'enceinte même de cette maison communale. Dans ces deux stands, les retournés manquent de tout. Au stade Reine Astrid, par exemple, on retrouve un seul chapiteau planté sur le terrain de football pour des centaines de personnes dans l'enceinte du stade. Pas de nourriture convenable, trois installations hygiéniques, dont deux toilettes et une douche pour ce même nombre de retournés. Dans les gradins, on peut apercevoir des mots, habits et même abris de fortune dans lesquels habitent ces retournés. Dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa, là, on ne trouve aucun chapiteau. Chaque famille se débrouille à sa manière pour fabriquer des semblants d'abris avec des pagnes et des bâtons de fortune. Ce sont des femmes et des enfants, y compris des jeunes gens qui s'y entassent, à se demander comment ils font au moment des intempéries. Côté nourriture, c'est un pain de 200 francs qui leur est donné chaque jour entre 15h et 16h, accompagné d'une bouteille d'eau de 500 ml. Pas suffisant pour atténuer la faim. Conséquence, certains jeunes se sont donnés à mettre la propreté dans le stade, par exemple, en coupant de l'herbe, avec espoir qu'ils puissent bénéficier d'un peu d'argent pour se nourrir. Face à cette situation, les autorités communales affirment que c'est une calamité qui est tombée, je cite, « comme un cheveu dans la soupe », fin de citation, et donc, le gouvernement central, tout comme provincial, ne s'y était pas préparé. Cependant, la prise en charge, selon les mêmes autorités, se fait assez normalement. On note par exemple la présence des cliniques mobiles pour prendre en charge des cas de maladie et le départ de la plupart des ressortissants du Bas-Congo, du Bandundu et ceux qui avaient des familles ici à Kinshasa. Le cas le plus difficile pour l'instant, c'est assurer le voyage des ressortissants de l'Équateur qui sont majoritaires et de la province orientale qui sont minoritaires parce que les moyens des transports coûtent beaucoup plus cher, affirment certaines autorités.
Merci Berry Franklin Luchaka. Samuel Monga, est-ce que vous êtes en ligne? Vous m'entendez?
Oui, madame, parfaitement.
Alors, un mot sur la description que Berry Luchaka vient de nous faire sur la situation humanitaire de ces expulsés du Congo-Brazzaville.
Écoutez, merci d'abord. Je regrette d'avoir un peu à intervenir. Alors, certaines questions m'ont échappé pour des raisons techniques, bien évidemment, qui dépendra de vous. Je me répète, j'en suis déjà désolé d'avance. Je voudrais simplement dire ceci. Avant de parler de la situation humanitaire proprement dite, deux ou trois phénomènes m'interpellent. C'est d'abord le problème de la récidive. On sait que ce n'est pas la première fois que les ressortissants de la RD Congo font l'objet de tant d'exactions à Brazzaville, même si cette fois-ci le nombre de chiffres est assez impressionnant. Alors, d'ores et déjà, il est important de se poser la question que faire pour enrayer cette marche alarmante, ce retour vers le passé. C'est pas bon du tout. Et je pense que c'est important que, lors des entretiens de haut niveau, on puisse directement s'attaquer aux vrais problèmes. Deuxièmement, on a parfois évoqué la question de la réciprocité, et je comprends parfaitement la situation un peu fragile en fait, dans laquelle se trouve le gouvernement, parce que adhérer à une forme de réciprocité sauvage en punissant, en renvoyant les ressortissants du Congo-Brazzaville, c'est d'une certaine manière adhérer à la loi du nivellement vers le bas. Et un État responsable, un État qui veut montrer l'exemple, eh bien, ne s'inscrit pas dans ce genre de logique. Et enfin, s'agissant de la crise humanitaire, vécue concrètement par le compatriote qui en est du Congo, vous savez, a posteriori, si les États européens remarquent peuvent être émises. Par exemple, il me semble que la situation que nous vivons a posteriori et le résultat, c'est en amont, à savoir les exactions peu honorables auxquelles sont soumises les populations, surtout que ce mode opératoire s'extrait des principes les plus forts du droit. On ne comprend pas quand on considère que nous sommes des bantous, on sait que l'humanisme c'est le socle des peuples bantous. On s'étonne un peu qu'il y ait ce visage cabré figé du côté de Brazzaville. Cela étant, il faut se rendre bien compte que le nombre, la pression démographique de ces réfugiés pose évidemment des questions pratiques, des défis majeurs dans le sens de l'organisation, de l'encadrement de ces réfugiés. Ne fait pas la douceur de ces ressources à l'avance. Donc, c'est sur le fond que s'organise la réaction. Et jusque-là, ma foi, le gouvernement a réagi, d'abord sur le plan diplomatique, en tentant de maintenir le dialogue et en refusant de s'inscrire dans une logique.
Samuel Monga?
Oui.
Samuel Monga? Oui, alors restez en ligne, on vous garde en ligne, on va prendre d'abord pour vous cette réaction qui nous vient d'Uvira au sud Kivu.
Harmonie Mapenzi, je suis au sud Kivu, précisément à Uvira. La situation de refoulement des Congolais depuis Brazza, pour moi, est juste un sabotage, un mépris total pour les Congolais. Le refoulement des étrangers réguliers, c'est normal, mais à quelles conditions? Le Congo-Brazza est signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le gouvernement congolais a bien fait de dénoncer, mais cela ne suffit pas. Il fallait aller plus loin à saisir les tribunaux internationaux. Il y a eu plusieurs contacts, notamment les députés, les gouverneurs et maires de la ville de Brazza, mais sans succès. Les soi-disant une réunion extraordinaire de sécurité, pour moi, s'avère inutile actuellement. Il faut des sanctions. Le gouvernement congolais doit sortir de sa torpère. Les étrangers sont au Congo sans documents. Les Congolais errent aujourd'hui partout. Il y a un problème dans les sociales du Congolais. Ça ne va pas. Pourquoi les Congolais sortent-ils partout? Donc, le gouvernement doit se réveiller, doit prendre cette situation au sérieux. C'est énervant. C'est un mépris pour moi.
Réaction Samuel Monga.
Écoutez, c'est toujours difficile d'intervenir en gardant la tête froide devant autant de drames humains, mais en même temps, peut-être au risque de certains points de vue, je pense qu'un État responsable n'appréhende pas les relations avec un autre État de manière photographique. C'est quelque chose de dynamique qui s'inscrit dans le présent, mais aussi dans le futur. Et il me semble que les deux pays sont appelés, de par ne plus que leur positionnement géographique, à un jour avoir de bonnes relations. Mais maintenant, c'est pas...
Et face à cette situation, Samuel Monga, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le gouvernement congolais devrait faire? Juste se limiter à dénoncer?
Écoutez, moi je pense qu'il y a un extrême qui ne faut évidemment pas passer, c'est celui de s'inscrire dans une logique de rupture, une logique de réponse violente. Mais par contre, la dénonciation doit monter crescendo. Il y a la dénonciation bilatérale entre États, mais je pense que c'est important, à un moment donné, d'intégrer les structures auxquelles les deux pays appartiennent. Je pense bien évidemment à la CEAC, je pense aussi à l'Union africaine. Ce sont autant d'organisations qui peuvent, d'une certaine manière, peser sur ce type de questions.
Merci.
Parce qu'au fond, on voit mal la RDC envoyer, enfin, jeter des bombes sur Brazzaville. Là, c'est totalement disproportionné.
Merci, Samuel Monga. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Bienvenue, Marie Bakoumani. On a subi la situation humanitaire de ces expulsés. Aucune structure en RDC pour accueillir ces expulsés. Les dirigeants parlent, en fait, s'attendaient pas à cette situation. Ils disent que cette situation est tombée comme un cheveu dans la soupe. Donc, difficile pour eux de gérer un peu tous ces expulsés qui viennent de Brazzaville.
Oui, déjà qu'ils aient prévu des espaces de transit, c'est déjà à féliciter. Qu'ils aient prévu même des conditions d'accueil au port de l'Onatra et ailleurs, c'est déjà une bonne chose à encourager. Qu'ils aient même prévu un conseil des ministres pour se pencher sur la question, c'est à féliciter. Mais seulement, pour le moment, nous attendons, ce n'est pas avoir réagi de manière épidermique, c'est réagir de manière à ce que les rapports des forces puissent se rééquilibrer. Nous attendons une réciprocité à la mesure des préjudices que la République a subis. Sans cette réciprocité, la réunion qui va se tenir, ça va être une réunion à sens unique. C'est le Congo-Brazza qui va imposer ses points de vue.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Il nous reste au moins de 2 minutes pour mettre fin à cette émission. On peut considérer cela aussi comme votre conclusion. Jean-Claude Vrimba, je rappelle que vous êtes député national et président du MPCR, vice-président du groupe parlementaire des PS et allié à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat?
Madame, le problème, j'ai entendu des rencontres diplomatiques. Mais le maire de Brazzaville, M. Hugues Moulin-Délé, est venu voir ses amis à Kinshasa, le gouverneur Kimbuta et consort. Mais comment voulez-vous, Hugues Moulin-Délé de Brazzaville, de Kinshasa, il vous répond qu'il n'était pas au courant de l'opération que le général Dengue faisait à Brazzaville. Et c'est la même personne qui vient demander, soi-disant, un pardon au nom du président de la République, sans être envoyé spécial. Même si M. Kimbuta traverse le fleuve, mais c'est pour aller rejoindre son ami Hugues Moulin-Délé et les autres. Nous disons tout simplement.
La convocation de cette réunion est-elle importante?
Elle n'était pas importante parce que ce ne sont pas eux qui tiennent les manettes, madame. La personne qui tient les manettes, c'est le président Sassou Nguesso, pas quelqu'un d'autre, madame. Et Sassou Nguesso sait très bien ce qui se passe parce qu'il est marié. À une Congolaise de Kinshasa. Donc, tout ce drame, il le connaît très bien. C'est pour cela que nous disons tout simplement, madame, moi, je reviens, en ce qui concerne l'accueil, madame, j'ai vu la DGM, pour une fois. Madame, je veux dire que la DGM du port de Beach, à Kinshasa, a été fantastique et continue à fournir un travail excellent, puisque moi-même, j'en faisais partie des gens qui rentraient de Brazzaville. Extraordinaire. Mais madame, la défense des services de renseignement, au lieu chaque fois d'aller pister et qu'est-ce que Jean Diomi a fait, qu'est-ce que Franck Diomi a fait, qu'est-ce que Jean-Lucien Boussa a fait, qu'est-ce que Kamel est en train de faire, ils doivent tout d'abord commencer à s'installer ailleurs. Et puis je termine sur une chose.
Rapidement.
Boycottons tous les sommets de la CEC tant que Sassou Nguesso sera président de la République. Et puis ce faible leadership du Congo, prenez votre courage pour rompre les relations diplomatiques.
Merci Jean-Claude Vrimba, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à la préparer et à la réaliser. Bonsoir chez vous et bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.